Musique du monde. Laurence Alloa. Tegui Mfatroré. Musique du monde sur RFI.
Un piano, une trompette, au bout des touches du piano Relema, sur les pistons les doigts de Bonnie Fields. Ces deux artistes sont nos invités dans la session live aujourd'hui pour présenter leurs albums respectifs, Transcendance et Bum City. Premier de cordée Relema avec le titre Transcendance précisément et tous ces musiciens. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette session live.
Even if we're well attuned with the crooked ways that led us here, we have so much yet to learn. We have to get to know each other and love each other, right? Thank you.
C'était Relema sur RFI dans les musiques du monde.
Music du monde. La session live. Sur RFI.
C'était le titre Transcendance au piano. Bien sûr, il y avait Relema. Il est accompagné par Michel Alibaud à la basse, Arnaud de Cazeneuve à la trompette, Irving Acao au saxophone, Nicolas Vicaro à la batterie, Rodrigo Viana à la guitare. Est-ce que j'oublie quelqu'un ? Non, je crois pas. Je crois qu'on a
dit.
Prochain concert parisien, ce sera au studio de l'Ermitage à Paris. Bah oui, si c'est un concert parisien, ça, c'est assez logique. Ce sera le 18 avril. Évidemment, vous allez faire de grosses dates en France, mais j'en retiens une. C'est le 15 juin au Jazz Kiff de Kinshasa. Alors là, vous allez jouer avec qui et vous allez jouer quoi ?
Je vais jouer avec Nicolas.
Nicolas.
Vicaro.
Donc vous l'emmenez dans les bagages. Nicolas Vicaro à la batterie en soute.
Alibaud à la basse.
Oui.
Irvine au sax. Et puis le reste, je prends des gens de là-bas.
D'accord. Et vous allez peut-être rendre hommage à quelqu'un que vous avez bien connu ?
En fait, oui. C'est pour ça que je me sépare de ma famille habituelle. C'est pour rendre hommage à un grand de notre musique, à nous, la musique congolaise. Et c'est Franco. Et le tout-puissant OK Jazz.
Tout-puissant OK Jazz, absolument.
Oui.
Est-ce que régulièrement, maintenant, vous avez des projets avec le Congo ? Parce que je sais que pendant une trentaine d'années, vous n'êtes plus jamais retourné au pays. Maintenant, quels sont vos rapports avec Kinshasa ?
Je suis surtout concerné par des problèmes d'archivage. Je m'occupe d'éducation musicale, je m'intéresse, j'aimerais bien pouvoir amener les Cubains, parce que je travaille quand même assez souvent maintenant à Cuba, j'aimerais amener les Cubains à Kinshasa pour venir nous aider au conservatoire. Et ensuite, il y a l'archivage parce que tous les musiciens traditionnels sont en train de mourir, les uns après les autres. Et comme chez nous, il n'y a pas de musique écrite, tout est en train de disparaître et les gens ne se rendent pas compte qu'on est en train de perdre tout un héritage, quoi.
Mais vous n'étiez pas déjà parti, plus jeune, parcourir le Congo avec un magnétophone ? Vous n'avez pas déjà archivé des heures et des heures et des kilomètres de bandes ?
Oui, mais il se fait que quand je suis parti du Ballet National, la personne qui est venue après moi a complètement recyclé toutes ces bandes que j'avais
enregistrées.
Comme
ça arrive souvent.
Comme ça arrive souvent.
Oui. Alors, je rappelle un peu votre parcours, Relema, ça fait 3 jours qu'on vit ensemble, enfin 3 jours que je relis votre vie, c'est kilométrique. Relema, je serais tentée de dire, mais quel chemin depuis le séminaire, parce que Ray a pensé à un moment embrasser la carrière de prêtre, j'aurais adoré me confesser avec vous. Mais en 62, vous avez dit au revoir, ce qui vous a permis de jouer quand même de l'orgue à l'église, donc le piano, découvrir les chants grégoriens, Chopin, Mozart, et puis la guitare, mais là je vais un peu trop vite. Vous êtes né dans une gare ou dans un wagon ? Parce que je sais que papa, j'étais chef de gare, mais je sais que maman n'a pas pu accoucher là où elle...
On a eu le temps de la débarquer du train.
D'accord, mais elle a accouché dans la gare.
Dans la gare.
Et donc, vous êtes née dans quelle gare, dans quelle station ?
Ça s'appelle Lufutoto.
Lufutoto,
oui.
À la gare de Lufutoto.
Exact.
C'était un vrai 9-9. Relema, donc, est originaire de la République démocratique du Congo, anciennement Congo belge, et puis le Zaïre. Vous arrivez à Kinshasa, ça s'appelait encore Léopoldville quand vous arrivez à Kinshasa ?
Ça s'appelait Léopoldville.
Voilà. Après l'indépendance, vous avez 14 ans, à ce moment-là, lorsque Patrice Lumumba est le premier ministre. C'est marrant comme on se rappelle de lui et pas du président. Lumumba s'est inscrit dans nos mémoires.
Parce que lui, il était pas du tout le gentil qui acceptait tout ce qu'on lui disait. Lui, dès le départ, il avait des revendications très vives. Et donc, ça n'a pas plu au Congo, on les appelle nos oncles. Ça n'a pas plu à nos oncles.
Il a été assassiné.
Voilà.
Vous avez commencé des études de chimie, mais la musique, c'est plus fort que vous. Vous faites embaucher à l'époque par Gérard Kazembe, qui est une vraie vedette, qui a un orchestre à Kinshasa qui marche très bien. À la fin des années 60, c'est là que vous commencez votre collectage de musique, hein ? Ou est-ce que c'est après le Ballet National ?
Non, c'est pour le Ballet National.
C'est pour le Ballet National.
Oui.
Et là, vous le dirigez. Et le but du Ballet National, c'est de collecter des musiques et de trouver les plus grands musiciens du Congo pour donner au pays une identité, en tout cas musicale.
C'est-à-dire, Mobutu voulait un ballet national qui n'existait pas encore. Et moi, j'ai été chargé de mettre ensemble la musique pour le ballet, parce que le ballet, c'est aussi des danses d'abord. Donc, il y avait un directeur pour le ballet, et moi, j'étais du côté de la musique.
Vous étiez le grand recruteur.
Voilà.
Donc, ça, c'était au début des années 70. Ça veut dire qu'en 74, pendant le match de boxe...
Non, c'était en 72 ans, on avait commencé ce projet-là.
Et en 74, vous êtes où ?
Mais justement, j'étais à Kinshasa, c'était pour le fameux match.
Vous y avez assisté ?
J'y ai assisté.
Alors ? C'est comme au cinéma.
Je ne suis pas très boxe. Hein.
Vous êtes plus piano.
Voilà.
Je comprends. En 79, vous filez aux États-Unis avec une bourse de la Fondation Rockefeller. Et je crois que c'est à la Nouvelle-Orléans que vous enregistrez la toute première fois un morceau qui peut-être s'appelle Côté Jam, mais je ne sais pas.
Oui.
Et vous le rejouerez plus tard.
C'est avec Stuart Copeland.
Stuart Copeland, donc l'ex-batteur de Police, vous allez faire un disque ensemble. Judith Matiste, ça fait partie des, comment dire, des choses qui sont assez fortes dans votre carrière, c'est cette capacité, cette curiosité, pouvoir arriver à faire de la musique avec des traditions qui sont très différentes de la vôtre. En 82, vous passez par la Belgique, vous vous installez en France, et là vous rencontrez un monsieur très excentrique, très bizarre, très inspiré, très visionnaire. C'est Jean-François Bizot, le journal actuel, Radio Nova, qui va un peu s'occuper de vous, un petit peu.
C'est lui qui m'a fait rentrer en France, en fait. Hein, parce que lui, il me cherchait aux États-Unis pendant que j'étais en Belgique. Et finalement, il a découvert que j'étais en Belgique. Et il m'a dit un jour au téléphone, ben, écoute, viens, tu prends tes enfants et tes femmes et enfants, tu viens à Paris, je te loge et je te nourris.
C'est ce qu'il a fait.
C'est ce qu'il a fait.
Vous avez donc habité dans le squat de Saint-Maur, là ?
Exact.
Et vous étiez avec qui ? Il y avait une belle équipe à l'époque. Il y avait Patrice Van Hersel.
Oui, il y avait pratiquement. Il y avait pratiquement toute l'équipe d'actuel, quoi.
Ah, ouais. Ça pétille les yeux.
C'était très stimulant. Hein. Vous savez, je suis musicien, mais je me considère aussi comme homme de culture. Et c'était formidable d'habiter avec des gens qui, à longueur de journée, te parlaient de l'Afghanistan, des États-Unis, du monde entier. Et ça m'excitait beaucoup d'être dans ce milieu d'intello, entre guillemets.
Transcendance, c'est un mot où l'on entend le mot trans et le mot danse. Le premier morceau que vous avez joué, évidemment, on pense à Fela. Est-ce que ça reste pour vous une référence, non pas importante, parce qu'elle est importante, mais est-ce que vous aimiez le personnage Fela ? Est-ce que c'était un ami à vous, Fela Kuti ?
Je ne dirais pas ami, c'est quand même la génération au-dessus de moi. Mais je l'admirais beaucoup, d'abord par ses prises de position, et ensuite musicalement. Et quand il avait été emprisonné, nous avons formé un groupe ici pour aider à sa libération. On avait appelé ce groupe Jericho, et j'étais le leader. Donc quand il est sorti de prison, il est venu ici à Paris pour nous remercier. Et c'est là que j'ai vraiment croisé le personnage, et que je me suis assise avec lui, et on a échangé, quoi.
Est-ce que vous connaissez Bonnie Fields ?
Moi, je connais.
Bonnie Fields, est-ce que vous connaissez Ray Lema ? Vous intéressez à dire oui maintenant parce qu'il a mis la barre assez haut.
Yes, I have heard of him. I have heard his music.
Oui, bien
before,
sûr, yes. Il connaît sa musique, mais par contre, c'est la première fois qu'il le rencontre en vrai.
Traduction assurée par Nadège Dumas, qui a plusieurs casquettes hein, dans le groupe.
Oui.
Elle fait saxophoniste, manager, oui. Traductrice et épouse. Quel est le rôle le plus compliqué, Nadège ?
Un petit peu tout, Joker. Ça dépend des jours.
Monsieur Fields et Madame Fields, rejoignez donc vos musiciens et vous allez interpréter pour tout le studio le titre And Giving Up on You. Parce que maintenant, ils ne peuvent plus, quoi. Ils ne peuvent plus reculer.
I can't say I'm not in love.
Bonifil sur RFI dans les musiques du monde.
La session live. Musique du monde.
Avec Bonnie Field qui était à la trompette et au chant, il y avait Bruno Pimienta à la batterie, Zou à la basse, Rachid Guissous au piano, clavier, Pierre Chabrel au trombone et Nadège Dumas au saxophone ténor. Bonsoir tous les deux. Je dis bonsoir à Nadège et à Bonnie.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Bomb City, c'est le nom de votre album. C'est votre 6e album. C'est le premier sous votre nom, Bonnie Fields. Avant, vous vous présentiez comme Bonnie Fields and the Bones Project, mais il y a eu quelques changements au niveau du personnel, notamment Hervé Samb qui a beaucoup d'autres engagements ailleurs, mais avec qui vous restez très amis, évidemment. Cet album est une image, je crois, pour parler d'une ville où on fait la fête toute la nuit, où on danserait également toute la nuit. Il me semble que ça existe déjà, ça doit s'appeler Ibiza ou Goa, mais vous, votre ville idéale où on danse toute la nuit, est-ce que c'est Chicago?
Well, Bomb City started the idea about Chicago.
Au départ, c'est vrai que c'était un peu Chicago, le groupe de Chicago, mais en fait, ça se passe un petit peu partout dans le monde, un petit peu partout où il va.
Bonnie Field, vous êtes né à Chicago en 58, votre père est musicien, votre maman dirige une chorale à l'église. Vous êtes donc un garçon, un enfant de Chicago, mais vous vivez en France. Vous avez rencontré Nadège, que vous avez épousée, et puis vous avez aussi un faible pour le beau-frère qui a une très belle piscine à Montpellier, dans le sud de la France. Cela dit, ce week-end, si vous voulez nous inviter, on vient avec Réléma. Vous avez grandi dans le West Side, c'est le ghetto noir de Chicago. La trompette, ça vient en regardant Louis Armstrong à la télévision. Quand vous l'entendez jouer, qu'est-ce qui se passe exactement dans votre tête?
What went through my mind was like he had power.
Il avait vraiment de la puissance.
You know, I mean power like the effect having people's attention.
Le fait d'arriver à attraper l'attention des gens, ce genre de puissance.
You know, and blowing the horn like that the way he did and have that many people's attention. Got my attention.
Oui, en fait, le fait qu'il arrive comme ça à capter les gens, à les amener vers lui, ça c'est vraiment ce qui a retenu son attention.
Alors évidemment, quand on entend Louis Armstrong une fois et quand on voit James Brown et son funk absolument incendiaire, l'affaire est faite, vous ne ferez pas autre chose que de la musique.
Well, you know, James Brown came much after.
James Brown, c'était bien plus tard en fait.
Yeah,
au départ, c'était vraiment le gospel et le blues qu'il entendait plus à la maison et par sa mère et par son père, du coup.
Around the house when my mother played.
Avant de vous lancer dans une carrière sous votre nom, Bonnie Fields, vous avez aussi joué avec Lucky Patterson, donc chanteur, guitariste de blues américain, dont vous avez assuré la direction musicale. Qu'est-ce qui vous reste de Lucky Patterson?
The memories.
C'est
a lot of great memories.
Beaucoup de super souvenirs.
Interesting stories.
Ah, des tas d'histoires très intéressantes apparemment.
Il y a aussi l'harmonica, l'harmoniciste James Cotton qui a eu une grande importance dans votre vie. Alors pour ceux qui ne savent pas, James Cotton, en dehors du fait que ce soit un virtuose de l'harmonica, il était sur l'album de Muddy Waters, Hard Again, qui avait reçu un Grammy Award en 77. Il est mort il n'y a pas très longtemps, il est mort en 2017. James Cotton, qu'est-ce que lui vous a légué par exemple?
James Cotton gave to me the experience not to be afraid on stage.
Alors, ce qu'il lui a laissé, c'est vraiment l'expérience de surtout pas avoir peur sur scène.
It's okay to let yourself go and feel whatever you want to feel on the stage because that's like your home.
Il lui a vraiment légué cette idée que la scène, c'est la maison, donc vas-y, fais ce que tu veux, laisse-toi aller.
J'ai le sentiment que le mot divertir chez vous prend toute sa raison d'être. Le divertissement, c'est pas quelque chose de vulgaire qui est là juste pour bourrer le crâne des gens et faire en sorte qu'ils ne pensent plus à rien d'autre. L'art du divertissement, c'est un art pour vous.
Entertainment for me is something that I live almost every day. It's a way of life.
Oui, c'est un style de vie, en fait.
Nadège, vous confirmez?
Oui. Est-ce que j'ai le choix?
It's a way of life. Fool, I'm asking your wife.
Around my house, you know, we sing songs, you know, that we make up and stuff like that. You know,
but... Oui, ça chante à la maison.
Réléma, je vous propose d'écouter un extrait de votre tout nouvel album, Transcendant. J'ai choisi le titre Chimère, parce qu'après reste deux musiciens qu'on aime beaucoup dans cette émission, Freddy Massamba et Jocelyn Mieniel, là dans le cas présent, flûte pour tout le monde. Alors pour Jocelyn Mieniel, c'est assez courant, et Freddy Massamba arrive avec les petites flûtes pygmées. Les flûtes pygmées, les chants d'origine pygmée sont souvent présents dans votre répertoire. Est-ce qu'ils ont une place à part dans votre cœur?
C'est simplement que ça fait partie de ma culture. Donc, comme j'avais deux flûtistes qui ont des styles tellement différents, je voulais les mettre ensemble à cause de ce que je voulais faire dans Transcendance. Je voulais montrer aussi ça, qu'il n'y a pas de barrière.
C'est un peu votre vie, hein. C'est le résumé de ce qui vous est arrivé. Vous avez appris le piano, vous avez une connaissance assez extraordinaire de la musique classique occidentale, mais vous connaissez aussi très très bien les musiques traditionnelles du Congo.
C'est vrai. En étant directeur de musique du Ballet National, effectivement, j'ai eu la chance de parcourir le pays et de travailler directement avec les musiciens traditionnels.
Chimère sur RFI. C'était le titre Chimère, cet extrait du tout nouvel album de Relema qui s'intitule Transcendance. Il y a quelque chose qui est intéressant dans votre carrière, ce sont les opéras. Un des premiers, je crois, que vous avez écrit, c'était pour Were Leaking à l'époque de Untou Arek s'est marié avec une pygmée.
Exact.
Were Leaking est une artiste camerounaise qui vit en Côte d'Ivoire, qui s'attroupe de théâtre Kimbok, qui est très impressionnante. Hein, quand on la voit arriver avec son bâton, c'est un personnage. On a l'impression que toute l'Afrique et ses déesses rentrent dans la pièce avec elle. Il y a aussi vous avez écrit un opéra, c'était il y a une vingtaine d'années, avec un orchestre de 30 musiciens qui était inspiré par l'Afrique. Et c'est un orchestre suédois qui l'a interprété. Là, semble-t-il, vous avez eu un gros, gros choc artistique. Votre musique interprétée par un orchestre.
C'était ma première expérience avec un orchestre symphonique. Et depuis lors, je suis resté amoureux des orchestres symphoniques. Parce que je trouve que c'est un instrument merveilleux. Au niveau de tous les timbres qu'il y a, pour un compositeur, c'est le pied.
C'est-à-dire qu'à la fois, on peut faire monter les harmonies occidentales et la rythmique de tout le continent, si évidemment les percussionnistes sont un peu doués.
Oui.
Si les compositions le sont également.
J'aime bien la précision parce que depuis lors, j'ai joué avec plein d'orchestres à travers le monde. Et malheureusement, les musiciens qui composent les orchestres symphoniques, c'est pas vraiment des grooveurs, hein. Donc, parfois, il faut y aller à la rame un peu. Mais bon, vous savez, petit à petit, on commence à voir une nouvelle génération de musiciens qui ne sont plus ni blancs, ni noirs, ni rien du tout, qui sont juste des musiciens du monde, curieux du monde entier, Et du coup, ça devient excitant maintenant.
Vous avez écrit combien d'opéras, Relema ?
Oh non, c'est seulement les deux là. Après,
c'est seulement ces deux-là ?
Après, c'est des morceaux à moi arrangés pour symphonique, mais ce n'est pas des opéras.
On vous a fait le coup au Brésil, en Chine ?
On m'a fait le coup au Brésil, mais le chef était tellement content de moi qu'il m'a remis toutes les partitions. Il a dit, j'ai été très honoré, donc je vous donne les partitions et vous en faites ce que vous voulez parce que je souhaite aux autres orchestres symphoniques de jouer ça. Voilà, c'est ce que je fais depuis.
Est-ce que vous caressez l'idée, le projet qu'un jour, votre travail, vos compositions pourraient être jouées à l'Opéra Bastille ?
Tout le monde qui veut jouer ça, c'est... Moi aussi, j'ai mis ça à la disposition de tout le monde parce que c'est pas souvent qu'on trouve des musiques africaines arrangées pour symphonique. Donc, je mets ça à la disposition de tout le monde pour qu'ils prennent s'ils veulent.
Je vous propose d'écouter de nouveau Bonifield avec ses musiciens pour un nouveau titre qui est extrait de son nouvel album Bump City. Le titre, c'est Around the Corner. We'll be right back. Fields sur RFI dans les musiques du monde.
Music du monde. La session live. Music du monde sur RFI.
Around the Corner, c'était un extrait du tout nouvel album de Bonnie Fields. L'album s'appelle Bum City. Alors, qui accompagnait Bonnie Fields à la trompette dans cet orchestre qui se trouve au grand studio? Au piano, il y avait Rachid Guissous, à la batterie Bruno Pimienta, à la basse Monsieur Zou, au trombone Pierre Chabrel et bien sûr au saxophone ténor Nadège Dumas. À quel moment vous avez décidé de vous installer en France? Avant ou après Nadège?
It was before.
Avant.
And somewhere in between.
Ça s'est fait un petit peu en même temps, en fait.
Vous étiez parti en tournée avec un groupe ou c'était sous votre nom?
No. I was on tour with Bernard Allison at the time. I got an offer from Luther Allison to come and work.
Il était en tournée avec Lucky Peterson et à ce moment-là, il y a Luther Allison qui lui habitait à Paris, qui lui a proposé de venir bosser avec lui.
Que des grands guitaristes de blues, hein?
Right.
Le top. Donc c'est oui, bien sûr. Et alors c'était en quelle année ça?
That was the 96, 97.
97, oui. Ouais.
Donc ça fait 20 ans. Est-ce que la vie en France, qu'est-ce que ça vous inspire et comment on peut percevoir éventuellement dans vos compositions, on peut percevoir l'endroit où vous habitez, où vous avez posé vos valises?
I think it's more
ça vient plus des musiciens eux-mêmes, des musiciens avec qui ils travaillent, que peut-être la culture, que l'endroit où ils habitent.
The culture that they live. You can live in France, but you can play blues.
Oui, on peut habiter en France, mais jouer le blues.
And blues is from America.
Qui vient des États-Unis, en fait.
You know, I mean, they don't add a French rhythm to the blues. You know, they play blues.
Il y a pas vraiment de rythme français pour le blues. C'est le blues. Point.
Est-ce que vous avez déjà joué sur le continent africain, Bonnie Fields?
With Alpha Blondy.
Avec Alpha Blondy.
Yeah.
À quelle époque?
2002.
Ouais, dans les années 2000, début des années 2000.
2002, 2003. We're lucky also.
Donc oui. Lucky Peterson, Luther Allison, Jeb Scotton, Maceo Parker aussi et Alpha Blondy. Mais, donc
well,
une trompette reggae.
With Maceo Parker, it wasn't no concerts. It was more like just at the studio recording.
C'était plus du studio avec Maceo en fait. Ils ont fait des
Maceo
albums,
and Fred Wesley.
Mais pas vraiment de live, pas de concert.
Il a dû vous en raconter des histoires sur James Brown parce que James Brown l'a épuisé. Après, il est allé faire directeur musical chez George Clinton et.
Mr. Brown.
Monsieur Brown.
Mr. Brown. Don't call him James.
Surtout pas l'appeler James, c'est Monsieur Brown.
That's the first thing you learn.
C'est elle. La première chose qu'on apprend.
That's the first thing, Mr. Brown. Right. You can't call him James.
Autrement, il vous enlève de l'argent à la fin du mois. C'est pas drôle. Rélema, est-ce que vous êtes d'accord pour jouer avec vos musiciens le titre Troisième Bureau? Déjà, le titre, ça donne très envie d'être un homme et de vivre en Afrique. On vous dira pourquoi tout à l'heure. Quand je serai grand, je serai africain. Yeah. J'aurai un troisième bureau. Rélema sur RFI dans la session live.
Yo pienso todo como niño soca capomba mambo vecina te tapañongo todo como nana moto bona yo como tolita moya mongo boni me ya confombaro boni
Sur RFI dans les musiques du monde.
Music du monde. La session live. Sur RFI.
Un troisième bureau interprété par Relema au piano et au chant, Michel Alibo à la basse. Michel Alibo, c'est le bassiste qu'on voit à peu près sur toutes les pochettes de disques depuis 30 ans entre l'Afrique et les Antilles. Arnaud de Cazeneuve à la trompette, Irving Akao au saxophone, Rodrigo Viana à la guitare, Nicolas Vicaro à la batterie. Vous allez embarquer quelques-uns de ces lascars le 15 juin à Kinshasa pour un hommage à Franco, donc en République démocratique du Congo. Avant, les Parisiens pourront vous coincer le 18 avril au studio de l'Ermitage, Relema Kelvi. Il y a quelque chose quand même qui est vraiment formidable dans votre carrière, c'est cette envie de transmettre. Normalement, tous les musiciens devraient s'y mettre, mais bon, ça dépend évidemment des profils, il faut voir un côté pédagogique, vous s'intéresser à un projet particulier. Vous, vous avez fait partie à un moment de l'Université musicale africaine. Donc, vous avez fait des masterclass au Burundi, au Burkina, en Afrique centrale. Est-ce que vous continuez à donner des masterclass aujourd'hui?
À cause de mon âge, de mon itinéraire et tout, je pense que c'est une sorte de devoir que j'ai envers la jeunesse africaine. Parce que, autant ici, on a tous les livres qu'on veut. On a toutes les écoles qu'on veut. Chez nous, c'est pas comme ça. Une librairie, au Congo par exemple, on n'a pas de librairie. Donc, il faut que chacun de nous donne de soi-même. pour que ça puisse circuler, la connaissance.
Donc, si je vous comprends bien, puisqu'il n'y a pas de bibliothèque, puisqu'il n'y a pas de traces écrites, les bandes que vous avez collectées dans les années 70 pour le Ballet National du Zaïre ont été, non pas perdues, mais on a réenregistré par-dessus à la Radio Nationale. Qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui pour faire ce travail de collectage et pour monter, pas une bibliothèque ou une sonothèque ou une magnétothèque, quelle est votre contribution ?
Ma contribution, c'est-à-dire, je cherche d'abord à intéresser les intéressés. Il faut que les Africains eux-mêmes se rendent compte que c'est une priorité pour nous. Parce que souvent ici, on dit que le problème de l'Afrique, c'est économique. Le problème de l'Afrique n'est pas économique. Le problème de l'Afrique est culturel. Parce que nous sortons d'une longue période de colonisation où on nous a fourré beaucoup de choses dans nos têtes. Et c'est très important que l'Afrique puisse se réapproprier ses racines pour savoir où aller. Pour le moment, nous ne savons pas où aller. Vous savez, quand on m'a nommé porte-parole justement pour l'histoire générale d'Afrique, il fallait que j'explique à mes jeunes collègues pourquoi c'était important. Et j'ai leur donné chaque fois l'image du GPS. Vous savez, le GPS.
Oui, l'assistant dans la voiture avec une voix ridicule.
Voilà. Et je leur disais chaque fois, vous connaissez le GPS ? Ils disaient, oui, mais enfin, le GPS, on le connaît tous. J'ai dit, comment ça marche ? Ah ben, vous rentrez l'endroit où vous voulez aller. Puis, je dis, non, c'est pas vrai. Quand vous rentrez l'endroit où vous voulez aller, le GPS ne bouge pas.
Il faut dire l'endroit où on est.
Il faut dire l'endroit d'où vous partez.
Oui.
Et c'est ça le problème de l'Afrique. Nous rêvons d'un avenir, mais nous avons complètement oublié d'où nous partons. Donc, ça fait une cacophonie terrible en Afrique aujourd'hui. Chacun amène son petit rêve, son petit idéal, mais il faut qu'on s'entende. Quand même, on est une culture et c'est un vaste continent. Donc voilà quoi.
Mathias Taylor, Fabien Munieret et Taguim Fatraoré étaient de l'autre côté de l'aquarium. Merci infiniment. On se quitte avec le titre You Burn Me Up, cet extrait du tout nouvel album de Bonnyfield qui s'intitule Bomb City. Notre invité aussi était également Relema pour son album Transcendance. Merci messieurs d'être venus dans cette émission. Deux aspects de la musique, deux quartiers différents dans le monde et puis finalement on se retrouve autour d'une petite table blanche. Allez, c'est fini.
Merci.
Merci.
Should I tell her how I feel? 'Cause this feeling's really real. Or should I risk seeing?